Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 13 août 2020. Après la séance méga compliquée de la veille, séance durant laquelle nous avons passé notre temps à interpréter les conséquences d'un vaccin russe, d'un rebond de l'euro-dollar, d'une baisse de l'or, d'une vice-présidente noire potentielle, de la gestion des executive orders de Trump et de la rotation sectorielle qui commençait, on s'est retrouvé avec une journée où franchement, il s'est pas passé grand-chose. Quand on regarde les nouvelles d'hier, on se rend compte que, mis à part le vaccin de Poutine, que l'autre gros sujet, c'est le gouvernement américain qui est en train de revoir les normes de pression d'eau à la sortie des robinets. Oui, Trump se plaint qu'il n'a pas assez de pression pour se rincer les cheveux et il tient à que ses splendides cheveux, qui ressemblent au pelage d'un berger de brie qui aurait été abandonné dans une grange depuis trop longtemps, soit absolument parfait. Et il semblerait donc que la pression de l'eau aux États-Unis ait quelque chose à voir avec ça. Je n'invente rien, c'est en première ligne de certains médias financiers. Tout ça pour vous dire qu'hier n'était pas la journée la plus excitante de l'année. Et pourtant, on n'est pas passé loin de battre les records historiques du S&P 500. Alors oui, au cas où vous revenez d'un voyage sur Pluton et que vous n'avez pas encore eu le temps de vous mettre à jour depuis le mois de février, il y a un virus chinois inventé par un pangolin qui en avait marre de finir en soupe, qui a pas mal posé de problèmes à l'économie. Les bourses se sont donc pété la figure, un bon crash qui a bien nettoyé nos aspirations bullish pendant environ 3 jours. Et puis le gouvernement et les banques centrales se sont occupées de nous, elles ont enfilé leurs costumes de Superman, Batman et d'Iron Man, et elles ont balancé tellement de liquidités que l'on a presque dû apprendre à compter au-delà du trillion. Et puis depuis cette époque lointaine qui date du 23 mars, les marchés se demandent quand est-ce que le S&P 500 retournera au plus haut de tous les temps. C'est un peu à ça qu'on joue depuis le début de la semaine. J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. En fait, on dirait moi en haut d'un pont avec un élastique attaché aux chevilles, sauf qu'il ne faut pas trop comparer avec moi parce qu'en ce qui me concerne, je ne sauterai jamais. Alors le S&P 500, lui, il va battre ce foutu record. Oui, on est à 15 points du Graal et ce, après 1200 points de rebond par rapport au trou de Mars. Alors on va quand même pas se dégonfler si près du but de bleu. Enfin, toujours est-il que hier, on s'est fait une rebuffade au dernier moment, mais que ce n'est que partie remise. Mis à part les problématiques d'ablution capillaire de Trump, il faut tout de même noter que le marché s'est montré relativement optimiste suite à l'annonce du vaccin made in Poutine. La nouvelle en soi est bonne. La question qui reste posée tout de même est de savoir si ce truc fonctionne et si toutes les normes de sécurité ont été respectées lors de l'étude. Pour l'instant, la Russie ne se montre que très parcimonieuse en ce qui concerne la distribution des résultats et des examens, des tests. Et puis, les experts en vaccins et en virologie, pas ceux de Facebook, hein, les vrais qui ont fait des études, la plupart des experts estiment donc que ça a été trop vite pour être bon. Il faudrait faire gaffe parce que ça peut être dangereux. En fait, la seule chose où ils sont tous plus ou moins d'accord, c'est que ça aurait été quand même mieux si le premier vaccin avait été annoncé par une boîte américaine et si possible coté en bourse et dans laquelle on avait des actions un peu avant l'annonce. Il est assez drôle de constater que tout le monde remet en question la crédibilité de Poutine, alors que si c'était Trump qui avait fait cette annonce, on aurait probablement rouvert immédiatement les boîtes de nuit à Ibiza juste pour aller fêter ça, et les USA auraient déclaré le 12 août jour férié, et les Français aussi, parce que ça aurait toujours fait un jour congé de plus. Mais là, c'est Poutine, et tout le monde pense que c'est du bullshit, et que, je cite, « les délais nécessaires à la création d'un vaccin n'ont pas été respectés ». Parlons-en des délais. Encore une fois, je suis pas un expert, mais la dernière fois que je me suis documenté un poil sur Wikipédia et dans le 20 minutes pour développer un médicament en temps normal, il fallait compter au moins 3 ans pour passer par les 3 phases nécessaires, sachant que si on allait trop vite et que l'on bâclait les protocoles, les autorités qui seront appelées à valider le truc pourraient devenir aussi pénibles qu'un agent de police municipale désœuvré qui vient de se rendre compte que vous avez dépassé votre stationnement autorisé de 34 secondes et 2 dixièmes. Tout ça pour dire que si Moderna est en phase 3 de son développement et qu'il nous pond un vaccin en octobre cette année, de toute manière, ça aura été trop vite. Trop vite. Oui, mais Moderna, c'est une boîte américaine dirigée par un Français, donc c'est pas pareil. Bref, Poutine est un escroc et il reste le méchant russe fourbe et menteur, alors que si ça avait été Trump, les trompettes de Jéricho auraient résonné pendant des heures. Pendant que la plupart des experts du monde entier étaient en conférence sur Zoom pour savoir si on allait tous se faire vacciner en version russe sous-titrée ou pas, et s'il fallait traduire la notice du vaccin en anglais, et qui est-ce qu'on pourrait traîner en justice devant les tribunaux si le vaccin déclenchait une épidémie de zombies et que l'on vivait Walking Dead pour de vrai, les intervenants se sont quand même dit qu'il était temps de profiter des opportunités d'achat sur le secteur technologique. Souvenez-vous, hier, lundi et mardi, on nous parlait de rotation de secteur et de la fin du run pour les technos. Mais en fait, non. En fait, quand Apple perd 4%, la correction est faite et on revient massivement sur des niveaux d'achat comme pour le reste et comme pour les semi-conducteurs. En gros, même si la journée n'était pas des plus passionnantes, il faudra tout de même noter un certain regain d'optimisme puisque pendant un bref instant, on a réussi à se dire que ce vaccin allait peut-être finir par arriver et qu'il y avait un semblant de retour à la vie normale et donc une reprise économique massive qui était quand même possible. Et puis après, je suis allé faire mes courses, j'ai oublié de mettre mon masque et je me suis fait plaquer au sol par 4 vigiles qui m'ont menacé de m'envoyer à Guantanamo si je ne me mettais pas immédiatement mon masque et si je ne me gargarisais pas au gel hydroalcoolique qui sent la grappa. Et puis alors que l'on touchait à l'euphorie sur la techno, que le S&P 500 frisait les records, on arrivait quand même à se moquer des commentaires des Pelosi qui laissaient entendre que les démocrates et les républicains étaient à peu près aussi proches de se mettre d'accord au sujet des plans de stimulus que les Palestiniens et les Israéliens le sont à propos de la vie en communauté. On a à peine fait attention aux chiffres économiques, sauf en Europe, où il paraît que la production industrielle était moins pire que prévu, ce qui laissait un peu d'espoir à Bernard Arnault de retrouver sa place dans le top 5 des hommes les plus riches du monde, lui qui est au fond du trou après être passé au 6e rang. Si jamais un numéro de téléphone pour les dons devrait être mis en place dans la journée, on vous tiendra au courant. Ce matin, en Asie, on remonte un poil, en Chine, le Japon reprend 2%. Il faut dire que le dollar rebaisse et Hong Kong ne fait rien. Pendant ce temps, l'or est en train de devenir presque aussi volatile que Kodak, puisqu'après une plongée vertigineuse depuis lundi, le métal jaune a soudainement stoppé la chute et est reparti à la hausse. Ça sent bon les 4000 pour la fin de l'année. Au plus bas de la séance d'hier, nous étions à 1865 et ce matin, nous avons même frôlé les 1950. Actuellement, ça paye 1922 et ça bouge aussi vite qu'un futur sur indice. Il faut dire que ces dernières 24 heures, on a entendu quelques prédictions assez catastrophistes sur la suite des événements. La première émanant du roi des obligations, Jeffrey Gundlach, qui estime que Kamala Harris, surnommé aussi le Messie, est un peu trop charismatique et que sur base de ça, le marché pourrait retourner au niveau des bas du mois de mars. Bon d'accord, pas que sur base de ça, mais disons que comme il est faux depuis des mois, il n'y a pas de raison que je vous donne plus de crédit qu'à mon Golden Retriever. Par contre, on a trouvé autre chose qui fout les jetons en 2001. Warren Buffett avait donné une interview dans laquelle il expliquait clairement que si les investisseurs s'étaient donné la peine d'observer un seul indicateur en 2000, ils auraient vu venir le crash. Cet indicateur, c'est la somme de toutes les capitalisations boursières par rapport au PIB. Lorsque la somme atteint 80% du PIB au plus bas, il faut acheter, et lorsque la somme de toutes les capitalisations dépasse les 100% du PIB, il faut tout vendre. Hier, nous avons atteint les 100% du PIB, sauf que dans l'histoire, on peut voir que comme d'habitude, et vous le voyez sur le graphique ci-dessous, il y a des emballements à la hausse qui ont tendance à durer avant de revenir à la normale. Les 100% du PIB ne sont pas forcément un mur, mais bref, si vous cherchiez une mauvaise nouvelle pour vous faire peur ce matin, je viens de vous la livrer. Dans les nouvelles du jour, tout le monde parle de la nomination de Kamala Harris et du fait qu'elle ait déjà commencé son travail de sape en attaquant Trump sur tous ses échecs. Il y a aussi Cisco qui a publié des chiffres pas terribles et qui a clairement exprimé ses craintes au niveau des ventes de l'IT, ce qui laisse craindre un ralentissement massif dans les dépenses au niveau de l'IT justement, sans compter que le CFO se tire. Le titre plongeait de 6% after close et puis Tencent a cartonné au niveau des chiffres, mais on a toujours la trouille rapport à WeChat et à la possibilité que Trump leur claque la porte en plein visage. Lyft a également publié des revenus en chute libre de 61%, comme s'ils avaient besoin de ça, alors que la Californie les oblige, eux et Uber, à reconnaître leurs chauffeurs comme des employés. Du coup, les deux sociétés pourraient quitter l'État américain jusqu'à nouvel ordre. Autrement, le pétrole s'approche des 43$, il va bientôt tenter de casser la moyenne mobile des 200 jours, déclencher une Golden Cross, et tout le monde dira qu'il peut retourner au moins à 50$. Côté chiffres économiques, nous aurons les jobless claims et pour l'instant, les futurs sont inchangés et le suspense est insoutenable. Le S&P 500 verra-t-il les 3400 ce soir ou faudra-t-il attendre la fin de la semaine? Je peine à respirer tellement je suis tendu. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Souvenez-vous, la bonne nouvelle dans ce monde, c'est qu'il y a des certitudes. L'or va à 4000, Apple vaudra bientôt 2000 milliards, le pétrole va retourner à 100 dollars et à la fin, Trump quittera la Maison Blanche. Peut-être pas cette année, notez bien. Je vous remercie de m'avoir lu jusque-là et je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit, pour boucler la semaine. À demain !